enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, j'aimerais voir avec vous simplement la réalisation des plans de Dieu dans notre vie personnelle, mais aussi dans toute l'humanité. J'étais particulièrement encouragé et je tiens ce matin d'abord à vous dire merci pour vos prières. Je sais que vous avez beaucoup prié pour nous lorsque nous étions en Israël et je tiens ce matin à vous remercier pour vos prières. Nous avons vécu des moments vraiment intenses, des moments heureux, des moments de paix, des moments où nous avons pu être des témoignages. Pas seulement moi-même, mais beaucoup de personnes dans le groupe ont pu simplement témoigner parce que les personnes leur posaient des questions. Nous ne sommes pas allés vers les gens sont venus vers nous, nous posaient quantité de questions, et avec beaucoup de joie, nous avons pu parler de qui nous étions et du Seigneur que nous servons. Et je veux vraiment vous remercier pour cela, et je vous demanderai encore de prier pour moi. Dans 2 semaines, je repars en Algérie, et nous avons besoin de vos prières. On sent vos prières. Lorsqu'on part, une paix nous envahit, une joie nous envahit, et la parole de Dieu est distribuée efficacement. Alors merci de tous nos cœurs, merci parce que nous avons vraiment besoin de vous. Je voudrais simplement dire, eh bien, que Dieu dérange parfois nos plans, parce que nos plans ne sont pas forcément ses plans à lui. Et je crois que nous devons nous habituer à être dérangés dans nos plans. Lorsque nous sommes partis ce matin, je vous parlerai un peu de ce qu'on a vécu en Israël, au travers de la parole de Dieu et au travers de laquelle nous voyons combien que Dieu avec précision accomplit strictement à la lettre eh bien, ses prophéties au sujet de ce peuple, au sujet de nous-mêmes aussi, car nous faisons partie de la prophétie, des prophéties du Seigneur. Amen. 48 heures avant de partir, tout était bouclé, les valises étaient bouclées, le groupe prêt, on avait fait notre réunion de préparation. 48 heures avant, juste un quart d'heure avant de venir au culte le mardi soir, ça sonne à ma porte et un frère et une sœur viennent nous faire une petite visite rapide parce que c'était un quart d'heure avant la réunion. Alors on leur a servi une tisane et on s'apprêtait ensemble à venir à la réunion et tout d'un coup mon téléphone sonne. D'habitude je ne prends pas le téléphone si près de la réunion, mais ce soir-là je l'ai pris et à l'autre bout du fil, il y avait une sœur dans un désarroi complet parce qu'elle était inscrite avec son mari pour le voyage en Israël. Et le médecin venait d'interdire formellement à son mari de venir. Il avait fait un problème de santé grave. Et elle pleurait au téléphone. Elle était catastrophée. Moi aussi, parce que ça posait des problèmes. Problèmes de remboursement, problèmes d'assurance, etc. Je ne savais pas trop comment les choses allaient se passer. Les frères et sœurs qui étaient là, qui n'avaient pas du tout prévu de partir en voyage, eh bien, étaient convaincus à cet instant-là que Dieu leur demandait de prendre la place de ces gens. 48 heures avant, hein, je ne sais pas si vous imaginez, on ne part pas comme ça dans un voyage aussi loin. Et nos bien-aimés, au départ, je ne les prenais pas trop au sérieux, parce qu'ils disaient ça avec le sourire, mais ils ont assisté à la réunion et après la réunion, ils sont encore venus me voir. Ils m'ont dit, ok, qu'est-ce qu'il faut pour venir? Je dis, mais il faut un passeport, est-ce que vous avez un passeport? Il dit, c'est extraordinaire, il y a 4 mois, ma femme m'a dit, ça serait bien qu'on fasse un passeport. Alors, le frère qui est agriculteur disait, mais à quoi tu penses? On part jamais en vacances. Dieu avait déjà préparé longtemps à l'avance leur voyage. On ne comprend pas toujours les plans de Dieu, les voies de Dieu. Et nos bien-aimés ont pu venir avec nous à l'extrême limite. Les choses ont pu se faire, les agences de voyage, etc. étaient d'accord, on a pu trouver des accords avec les avions, tout s'est passé à merveille. Et pendant leur voyage, eh bien, ces frères et sœurs ont eu la conviction eh bien, de faire le pas de l'obéissance et d'entrer dans les eaux du baptême. Et nous les avons donc baptisés ensemble avec tout le groupe dans le Jourdain. La direction de Dieu, les directions de Dieu, on ne comprend pas toujours. Seigneur, mais pourquoi tu fais ça maintenant à cette famille qui se réjouissait? Et pourquoi toutes ces choses? On est dépassé. Et l'homme n'aime pas être dépassé. On aime tout contrôler, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire ce matin, ne contrôlez rien avec Dieu. Laissez-vous conduire. Laissez-vous conduire dans les changements de plan de Dieu. Laissez-vous conduire. Faites-lui confiance. Faites confiance au Seigneur. Notre Seigneur réalise sous nos yeux strictement ce qu'il annonce dans sa parole. Et j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, au chapitre 3. Jérémie 3, nous allons lire quelques versets. Jérémie 3, verset 14. Jérémie 3, verset 14, il est écrit là, « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence, avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble au pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. » Depuis 1948, nous avons la réalisation sous nos yeux d'une prophétie importante de la part de notre Dieu. Dieu avait dit que dans les derniers temps, avant le retour de Jésus-Christ, Israël redeviendra une nation. Malgré la contestation d'une quantité de nations et d'une quantité de personnes, rien n'a pu arrêter la volonté de Dieu. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait avec la force, avec des combats terribles, mais ça s'est fait. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Malgré la volonté inverse de l'homme, des hommes, le plan de Dieu s'est réalisé. Et comme pour attester la création de l'État d'Israël, en même temps, la même année, on a fait la découverte extraordinaire des rouleaux d'Ésaïe et d'autres rouleaux, encore les rouleaux de l'Ancien Testament, à Qumran. Comme si Dieu voulait attester, c'est moi qui ai décidé cela. C'est moi qui aujourd'hui, eh bien, vous montre que ma parole est la vérité et ce qui est inscrit dans ma parole se réalisera irrémédiablement. Un avertissement aux yeux des hommes. La découverte des rouleaux de Qumran, pour moi, c'est la découverte la plus extraordinaire qu'on a pu faire au niveau de la Bible. La découverte des rouleaux de Qumran a fait reculer les textes les plus anciens que nous possédions avant cette découverte de 48 de 9 siècles. Mais là où le miracle est grand, c'est qu'en comparant les textes que nous avions, les plus vieux textes, et la découverte qu'on a fait à Qumran, on se rend compte que la parole de Dieu n'a pas bougé ni même d'une virgule, ni même d'un point. Dieu veille sur sa parole. Et ça me rend confiant. Ça me rend confiant d'une manière extraordinaire. Ça me donne une assurance et une force fantastique. Et je me dis, Seigneur, si tu veilles comme ça sur ta parole, tu veilles exactement de la même manière sur ma personne et sur moi. Ça vous réjouit pas des masses, hein? Moi, ça me réjouit. Ça me rend heureux de savoir que ce Dieu tellement précis, quand je me considère aux yeux de la création, aux yeux du monde, je me dis, mais qu'est-ce que je suis, Seigneur, pour que tu puisses vraiment prendre un soin particulier de ma personne. Et plus j'avance dans ma vie, plus je réalise combien le Seigneur est amoureux de moi. Et j'aimerais tellement lui rendre cet amour. Je suis tellement limité dans mon intelligence, dans mon cœur. Mais je vois combien Dieu est amoureux de nous. Combien aussi il veut se servir de chacun de nous pour accomplir strictement ce qu'il a annoncé dans sa parole. Dieu lui-même veille sur sa parole. Et personne ne pourra empêcher la réalisation de son contenu. Personne. Aucun être humain, aucune force politique, aucune puissance militaire. Et ça nous rassure. Verset 14 que nous avons lu ensemble, il nous est dit quelque chose d'intéressant que j'ai découvert au fil des années, au fil de mes voyages. Il est écrit là, « Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. » Lorsque je parle avec les Israéliens que je connais maintenant dans le pays, ils me disent strictement tous la même chose. Lorsque je parle avec Françoise, notre guide et nos amis qui étaient avec nous peuvent en témoigner. On lui pose la question, mais comment tu as fait pour venir ici? Françoise est issue d'une famille qui a une très bonne situation en France. Et elle dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais un jour dans mon cœur, il y a eu un appel tellement fort, elle était jeune fille, à 18 ans. Il y a eu un appel très fort dans mon cœur et je me sentais poussé à venir habiter en Israël. Et je dis, mais ta famille, t'as pas suivi? Non, au contraire, on m'a fait la guerre, on m'a dit, tu es folle, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ici, tu ne manques de rien, là-bas, tu n'as rien. Et c'est vrai que pour elle, la vie n'est pas simple. Elle ne vit pas, elle ne roule pas sur l'or, elle doit travailler dur pour pouvoir vivre. Mais cet appel dans son cœur, et lorsque je lui dis, mais tu n'as pas envie de revenir en France, elle me dit, écoute, chaque fois, je viens quelquefois en France, mais chaque fois que je viens en France, j'ai l'impression de venir à l'étranger. Et je suis heureuse quand je rentre de nouveau dans le pays, dans mon pays, celui qui m'a attiré depuis l'âge de 18 ans. Je parlais avec Eva, mon ancienne guide, c'est exactement la même chose. Ce qui est frappant, c'est que c'est une ou deux personnes par famille, c'est rarement les deux familles, l'accomplissement textuel de ce verset. Marcelo, le mari d'Eva, qui est devenu mon ami, lui aussi, il m'a dit, si tu savais la guerre que m'ont fait mes parents, il est issu d'une famille très riche au Brésil. Et tout le monde l'a traité de fou lorsqu'il est venu en Israël. Sa famille lui a fait la guerre, ils ont tout fait pour qu'il ne vienne pas. Il a dit, l'appel à l'intérieur de mon ventre, dira-t-il, était tellement fort. Personne, aucun argent, rien n'aurait pu me retenir. Rien. La parole de Dieu s'accomplit textuellement. Dans le livre de Zacharie, on peut prendre ce passage également, verset 1. Zacharie 12, verset 1, il est écrit « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. » Pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem, une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Cette parole est criante de vérité aujourd'hui. De plus en plus, la pression augmente. Il n'y a qu'à suivre les infos, écouter les médias. On voit combien la pression augmente. Et combien les peuples, les uns après les autres, tournent le dos à Israël. C'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Cette parole est criante de vérité aujourd'hui. Et j'ai rencontré des personnes, des juifs français. Il y en avait beaucoup cette année. On a été impressionnés, le groupe en témoignait, impressionnés par le nombre de Français qui viennent actuellement en Israël. Alors, pour beaucoup, ils viennent en visite. Et cette année, on a dénombré en Israël, l'Office du tourisme a dénombré 180 000 visiteurs français, juifs français, visitant le pays. Mais beaucoup d'entre eux, plus de 2500 appartements se sont vendus cet été dans la région des Lattes, 2500 appartements, tous achetés par des juifs français. Et un soir à l'hôtel, nous étions assis là, tous à table. Et il y a un couple de juifs français qui sont venus s'asseoir à notre table et nous ont posé plein de questions sur qui on était, etc. Et cet homme me disait, voyez, pasteur, j'ai deux hôtels à Paris et nous avons vécu à Paris toute notre vie. Mais j'ai jamais senti une telle pression comme la pression qu'on subit aujourd'hui, actuellement, dans notre pays de France. Il me disait, ça se traduit très simplement par des insultes quotidiennes. Il dit, moi, volontairement, je ne mets plus ma kippa sur la tête lorsque je sors, mais malgré ça, lorsque je suis repéré, eh bien, il n'est pas rare qu'on nous jette des œufs dessus, qu'on nous insulte, qu'on nous lance des seaux d'eau par la fenêtre. Toutes ces choses-là, on ne l'entend pas sur les médias. Et cet homme était en train, là, de faire le tour pour voir s'il ne pouvait pas, eh bien, acquérir une propriété pour venir s'installer au cas où vraiment les choses tournaient mal dans notre pays. On voit combien la véracité de la parole s'accomplit devant nos yeux. Et moi, je me réjouis de voir, je ne peux pas me réjouir de la position parfois que prend notre pays. Je ne peux pas me réjouir de cela. Mais ce qui me réjouit, c'est de voir que ce que Dieu a dit s'accomplit réellement. Ça réjouit mon cœur. Et j'ai de plus en plus envie de faire confiance à mon Dieu et j'ai tellement envie de le servir davantage quand j'entends ce genre de choses. Et toutes ces choses sont pour nous l'occasion de devenir des témoins efficaces et puissants pour le peuple d'Israël. Alors, je voudrais dire ce matin qu'il ne s'agit pas de faire de sentimentalisme envers le peuple juif, surtout pas. Écoutez plutôt ce que dit l'Écriture à leur sujet. Je vais lire un texte dans Romains chapitre 11, verset 23, vous pouvez vérifier ça. Versets 23 à 29, et on prendra un autre texte après. Je vais lire dans la version en français courant, elle est très explicite, mais très intéressante. Il est écrit là, « Et si les Juifs renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés là où ils étaient auparavant, car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. Toi, c'est de nous qu'on parle, toi tu es la branche naturelle d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé, contrairement à l'usage naturel sur un olivier cultivé, celui que représente l'Éternel. » Quant aux Juifs, ils sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Dieu pourra donc d'autant mieux les greffer de nouveau sur l'arbre qui est le leur. Frères, je veux vous faire connaître le plan secret de Dieu afin que vous ne preniez pas, pour des sages. Une partie du peuple d'Israël restera incapable de comprendre jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Rendez compte un peu de la portée de ces paroles. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme le déclare l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il éliminera la révolte des descendants de Jacob. Voilà l'alliance que je ferai avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. Si l'on considère leur refus de la bonne nouvelle, ils sont les ennemis de Dieu pour votre bien. Mais si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont toujours aimés à cause de leurs ancêtres, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Amen. Ce texte est très clair, explicite au niveau du peuple juif. Un autre texte très intéressant aussi que j'ai trouvé dans le deuxième livre des Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 7. On va lire le verset 7 et 8 et ensuite on relira à partir du verset 12. Il est écrit là, « La loi a été gravée, lettre par lettre, sur des tablettes de pierre et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui et pourtant cet éclat était passager. Si la loi dont la fonction avait pour effet de mener à la mort est parue avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par l'Esprit ?» Verset 12, c'est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d'assurance. Nous ne savons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites d'en voir disparaître l'éclat passager, mais leur intelligence s'était obscurcie. Et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Amen. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Amen. Notre rôle de chrétien, frères et sœurs, c'est justement de faire refléter la gloire de Dieu pour le peuple d'Israël. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu en nous. Et je vous garantis que ça marche. Personnellement, eh bien, je ne vais jamais vers un juif pour lui témoigner de Jésus-Christ. J'attends toujours que le Saint-Esprit, dont il nous est parlé là, eh bien, l'envoie vers moi. Et il le fait. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages, on a pu donner à l'intérieur du groupe à des personnes qui venaient tout seules vers nous, attirées. J'ai vu des gens qui n'étaient absolument pas tranquilles. Un homme, un matin, sur une des plages, alors qu'on avait pris un jour de repos, le seul jour de repos d'ailleurs qu'on avait pendant tout notre périple, eh bien cet homme est venu et il observait les gens. Je le voyais faire. Et il observait les gens du groupe et il allait de l'un à l'autre. Il posait des questions sans arrêt jusqu'à ce qu'il est venu vers moi et me dit « C'est vous le grand Manitou de ce groupe ?» Je dis « Non monsieur, faites une erreur, moi je ne suis pas un grand Manitou, je suis serviteur du Dieu vivant. » Et il m'a posé quantité de questions. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui travaille, c'est le Saint-Esprit qui les envoie. La parole de Dieu nous le dit clairement. Et ce n'est pas comme certains le disent aujourd'hui, le proclament aujourd'hui, nous ne sommes pas comme on l'entend. Eh bien, les remplaçants du peuple élu, c'est totalement faux, c'est une hérésie que de dire une chose pareille. Notre devoir est de les aider à enlever le voile qui est devant leurs yeux. Notre témoignage ne peut être reçu qu'avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, qu'avec le reflet que nous aurons sur nos personnes, sans même parler, vous savez, on voit la différence. Le manager de l'agence de voyage qui me fabrique tout le temps les voyages, eh bien me dit toujours, Christian, je vois des centaines, des milliers de personnes par année, tous les ans, mais lorsque vous venez, il y a quelque chose de spécial. Toutes les portes s'ouvrent, tout va comme sur des roulettes, je ne comprends pas des choses que je ne peux jamais avoir avec les autres, avec vous on les a toujours. Et ça, je lui ai dit, Gad, tu sais, ça, c'est pas nous, hein. Il dit, mais si, vous êtes différents. Je dis, oui, on est différents, mais c'est pas nos personnes qui sont différentes. C'est l'esprit qui nous anime, qui fait que tu vis ces choses-là avec nous. C'est tout. Et nous devons donc être ces témoins vivants. Vous savez, on a visité avec le groupe cette grande association Yad Sara, pour laquelle nous faisons de la collecte de matériel médical, de lits, etc. On a déjà envoyé 4 conteneurs en Israël. Et avec le groupe, nous avons visité cet endroit. Et le directeur, qui est devenu avec le temps un ami, Shlomo, lorsque je suis arrivé avec des larmes dans les yeux, m'a serré contre lui et il m'a dit de tout son cœur, il m'a dit merci, remercie toute ton église pour ce que vous faites. Le dernier conteneur, lorsqu'il est arrivé, 4 heures après son arrivée au port, était complètement vide et distribué dans tout le pays, aussi bien chez les Palestiniens que chez les Israéliens. Je rappelle qu'ils travaillent pour les deux communautés. Et on a vécu un moment extraordinaire où Dieu a utilisé, là aussi, des choses incompréhensibles pour que nous puissions être des témoins puissants pour tous ces gens qui nous observent. On était dans le couloir alors que le groupe commençait à visiter les locaux, moi je les connaissais, alors il m'a dit reste avec moi, et j'étais avec sa secrétaire et mon épouse, et on discutait. Sa petite secrétaire commençait à me poser des questions, qu'est-ce que vous faites, comment ça se fait que vous nous aidez, etc. Et tout d'un coup, une de nos sœurs sort, se détache du groupe qui était en train de partir, et je la vois vraiment, elle était toute pâle, elle n'était pas bien, elle est sortie pour prendre de l'air. Et quand j'ai vu ça au travers de la baie vitrée, je me suis excusé auprès de ce directeur et de sa secrétaire. Et je suis sorti à l'extérieur et j'ai prié avec notre sœur. J'ai imposé les mains. Mais eux voyaient tout de l'intérieur. Ils me voyaient faire. Et ils se posaient un tas de questions. Ils étaient collés à la vitre, je les voyais. Et puis ils regardaient ce que je faisais. Et j'imposais les mains avec foi à notre sœur pour que le Seigneur la relève. Lorsque je suis rentré à nouveau, c'était un flot de questions incessants. « Mais qu'est-ce que tu as fait avec cette dame ?» Je dis, tu vois, elle se sent pas bien et mon devoir en tant que berger, eh bien, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est écrit, « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il me dit, « Mais où c'est écrit ça ?» Je lui dis, « Mais c'est écrit dans la Nouvelle Alliance, c'est un commandement de Jésus. » Et puis la secrétaire ne cessait pas de me poser des questions. Au bout d'un moment, cet homme a dit, « Viens, on rentre dans mon bureau. » Et il continuait. Pendant plus d'une heure, il nous posait des questions avec Karine et moi-même. Et au bout d'un moment, il me dit, « Christian, je t'en supplie, n'arrêtez pas de nous envoyer du matériel. On en a cruellement besoin. » Et je lui ai dit, avec Karine, on lui a dit, « Shlomo, tu sais, nous, on travaille pas dans le médical. Et on est totalement dépendant de Dieu. Et si Dieu n'ouvre pas les robinets, eh bien, on n'a rien à te donner. Alors si tu es d'accord, on va prier ensemble. » Nous, c'est chaque fois ce qu'on fait à la maison avec ma femme. Quand les lits ne viennent plus, quand les fauteuils roulants n'arrivent plus, on se met à genoux et on prie. C'est pas pour nous, mais c'est pour vous qu'on le fait. Et si tu es d'accord, eh bien on peut prier ensemble. Et ce juif religieux, pratiquant, eh bien a accepté qu'on prie ensemble. Et dans son bureau, on a appelé le secours de l'Éternel, le secours de Jésus, pour que le matériel arrive en abondance en Israël. Et je crois que le Seigneur va répondre pour que ce soit un témoignage encore plus puissant. Amen. Dieu se sert de situations parfois incompréhensibles. Vous savez, c'est gênant de voir quelqu'un du groupe qui se sent pas bien et... Non, mais ça a été utile pour qu'il voie ce que nous faisons et qui nous sommes en réalité. Pour que des points d'interrogation s'allument au-dessus de leur tête et qu'ils cherchent la réponse au travers de Jésus-Christ. J'ai vu quelque chose d'étonnant. Ils ont fait un appel à Yad Sarah, à la radio nationale. Ils cherchaient des dentistes pour soigner les vieilles personnes, pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Et ils ont fait un appel à des dentistes volontaires. Il y a 40 dentistes qui ont répondu. Et à tour de rôle, ils viennent, ils donnent une journée de leur travail, une journée entière, pour soigner les gens gratuitement. Et ils font ça avec des médecins également. Une quantité de médecins viennent, laissent une journée entière, abandonnent leur cabinet, et pendant une journée entière, ils viennent servir bénévolement pour soigner les personnes. Ils ont même une base mobile qui va vers les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Moi, je me suis dit, Seigneur, pour boucher le trou de la sécurité sociale, on a une solution ici extraordinaire. On a à apprendre. Shlomo me disait quelque chose dans son bureau, il me dit, tu sais, le problème qu'on a en tant qu'être humain, lorsqu'on appartient à une nation, quelle qu'elle soit, on attend toujours quelque chose de notre gouvernement, mais on ne pense jamais à apporter quelque chose à notre pays. Et il a raison. Il a raison, c'est une attitude qu'on a. On veut toujours être servi par notre pays, par notre gouvernement. Mais nous, que faisons-nous pour notre pays? C'est une question à se poser, qui est importante. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être un bon témoignage. Le dernier jour de notre voyage, avec le groupe en tout cas, je suis resté une semaine de plus avec mon épouse. Mais le dernier jour, nous avons eu la visite du chef de cabinet et de son assistant, chef du cabinet du ministre des Transports, du Tourisme, qui est venu nous rendre une visite à l'hôtel. Et cet homme était ému en nous disant que, eh bien, il était tellement heureux de voir que des touristes venaient visiter le pays. C'est devenu une rareté dans le pays des touristes. Il était tellement ému et il a dit au groupe, et le groupe en est témoin, il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il m'a dit, le gouvernement aujourd'hui connaît ses véritables et seuls alliés. Les seuls alliés du pays d'Israël aujourd'hui, ce sont les chrétiens évangéliques remplis du Saint-Esprit. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de ce représentant du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Nous sommes reconnus aujourd'hui comme des gens. Il dit, vous savez, on n'a pas besoin d'armes, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ce qu'on a besoin, c'est de vos prières. Continuez à prier pour nous. Continuez à venir nous bénir en nous visitant. Remontez-nous le moral par vos prières, vos supplications. C'était les paroles de ce monsieur Bénur. Il s'appelait Bénur. Hein. Je ne sais pas si c'est un descendant de Bénur. Peut-être. Mais cet homme était bouleversé. On lui a chanté un chant. C'est avec des larmes dans les yeux qu'il nous a quittés avec son assistant ou son ami. Mais l'importance de notre témoignage est aujourd'hui connue dans tout le pays. Vous êtes connus, bien-aimés. Ils savent qu'à Mulhouse, il y a une église qui les aime, une église qui prie pour leur pays. Je suis resté un peu plus longtemps et là aussi, j'ai découvert des choses très intéressantes. On ne savait pas quoi faire. Ma femme m'a dit... Eh bien, cette année, on va rester un peu plus longtemps en Israël. Et puis, quand le groupe est parti, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je regrette d'avoir dit ça, de t'avoir dit ça. J'étais tellement content que ce n'était pas ma décision à moi. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant tout seul? On n'a rien prévu, rien organisé. Et je lui dis, écoute, on va prier. Et puis, le Seigneur va nous guider. C'est exactement ce qu'il a fait. On a passé une semaine qui a passé à une vitesse grand V. Avec une direction du Saint-Esprit remarquable. Et j'ai été visiter pendant cette semaine-là notre ancienne guide Eva qui était sur le point d'accoucher. D'ailleurs maintenant son enfant est né, elle a un petit garçon. Pour ceux qui connaissent Eva, je sais que vous êtes nombreux, il y en a plus d'une centaine qui connaissent Eva, plusieurs centaines qui connaissent Eva. Elle a un petit garçon et depuis 3 jours maintenant. Et Eva me disait, on a été manger un petit quelque chose à Abu Ghosh, et il me dit, tu connais, dans ce village, il y a une église, une très vieille église, est-ce que tu connais cette église? Je lui dis, non, mais je lui dis comme ça, tu sais, moi, Eva, les églises, les bâtiments, ça m'intéresse pas tellement. Elle me dit, mais tu sais, là, il y a un moine qui est particulier, il mérite d'être connu. Et puis elle insistait, j'avais pas tellement envie de vous savez, la vie monastique, moi, c'est pas mon style, hein. Mais connaissant Eva quand même, je voulais lui faire plaisir. Je lui ai dit, allez, on va le voir, ton moine. Puis on est arrivé. Et il se trouvait que ce moine était là. Quand il a ouvert la porte, frères et sœurs, à la seconde même, je me suis rendu compte que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Il était rayonnant de joie. Il respirait l'amour. Et très vite, on n'était que quatre. Très vite, on a lié les amitiés, il n'y avait pas du tout de protocole entre nous, on s'appelait frère, on s'est tutoyé tout de suite. Et je lui dis, mais Olivier, mais comment ça se fait que tu as atterri là? Il dit, mais c'est la question que je me suis posée aussi, hein. Moi, je voulais servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, et puis il m'a envoyé ici, enfermé entre quatre murs avec quelques moines, et je faisais du jardinage. Je me posais la question pendant des années. Je dis, Seigneur, mais moi, je veux te servir, j'ai pas l'impression que je suis utile à quelque chose. Et puis, eh bien, le Seigneur a répondu à sa prière. Le gouvernement a décidé de faire connaître à tous ces jeunes soldats pendant une semaine les différentes croyances qu'il y a dans le pays. Et un jour, dans la semaine, eh bien, les soldats de l'armée israélienne viennent et Olivier, eh bien, leur témoigne de Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Et en quelques années, il a vu 700 000 soldats. 700 000, je ne sais pas si vous imaginez, 700 000. Il a pu témoigner à 700 000 soldats. Et il est aimé de ces soldats, je peux vous dire. Il nous a fait rentrer dans une pièce secrète qu'il fait voir à personne. Mais très vite, on était devenus des amis. Et Olivier souffre d'un cancer. Il nous a demandé de prier pour lui. On a prié pour lui. On va encore le faire. Et ce frère, vraiment, nous a fait voir cette pièce. Au départ, ça paraissait étrange, une pièce voûtée comme ça. Dans cette pièce, il y avait des milliers d'insignes militaires, des bérets, toutes sortes de souvenirs auxquels les soldats étaient attachés et qui lui ont fait cadeau de cela. Des hauts gradés de l'armée, des généraux même qui lui ont offert leurs épaulettes, leurs barrettes, etc. Des centaines, des milliers de témoignages d'affection, de personnes qui lui écrivaient « Merci Olivier de nous avoir fait rencontrer, fait découvrir Jésus-Christ ». Frères et sœurs, il y a un travail qui se fait dans ce pays. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse nous rendre compte de cela. L'Éternel est à l'œuvre, je vais faire vite, arriver à ma conclusion. Simplement, j'ai passé un temps dans le désert. Et j'ai rencontré là-bas un frère qui lui aussi me disait, il vivait seul avec sa femme au milieu d'une dizaine de familles très hostiles et il n'avait pas peur d'afficher sa foi. Il suscite beaucoup de questions dans son environnement et il me disait, tu sais, aujourd'hui c'est un temps favorable. Beaucoup de juifs nous écoutent parce que ça va très mal, la pression est tellement grande. Et lui, il était feu et flamme, il était réjoui, vous savez ce qu'il me disait? Il me disait, pourvu que ça dure. Sacré kamikaze, hein. Peut-être qu'il sera parmi nous dans 2-3 semaines, là. Eh bien, il était heureux. Il me disait, tu ne peux pas savoir, les gens qui étaient hostiles envers moi, eh bien, de plus en plus, aujourd'hui, m'écoutent. Et pendant que j'étais là-bas, il avait des conversations avec ses voisins jusqu'à 2-3 heures, parfois 4 heures du matin. J'ai dit, mais quand c'est que tu dors, toi? Il dit, tu sais, le Saint-Esprit me renouvelle. Et puis, ils sont remplis de questions, il faut leur répondre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors, en conclusion, je dirais que l'Éternel a des plans précis pour l'humanité et pour toi, mon frère, ma sœur. Il veut t'utiliser. Laisse-toi utiliser. Ne rouspète pas quand ça va de travers dans ta vie. Si parfois ça va de travers, dis-toi que peut-être le Seigneur veut autre chose. Veut autre chose dans ta vie. Il veut te donner une nouvelle direction. La connaissance de sa parole et de sa volonté pour nous nous permettra d'éviter de tourner en rond. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir l'impression de tourner en rond. C'était dans ma vie parfois une constatation que je faisais. Tourner en rond, c'est terrible. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet-là. On avait fait une partie du Jourdain. On est descendu la rivière du Jourdain en rafting. Vous savez ce que c'est le rafting, hein, des petits bateaux pneumatiques, on était 5-6 dessus. Et puis tout le groupe est monté sur ces bateaux par 5, par 6. Et puis on avait un bateau particulier avec les anciens du groupe. Hein, tous les retraités du groupe étaient dans ce bateau. Et puis on est partis, ils étaient partis avant nous, ils ont été dépassés par tout le monde. Et puis au bout d'un moment, on les a perdus de vue et avec Francis Clavry, son épouse, on s'est dit, on va pas les laisser, il faut qu'on les attende. Alors on a fait demi-tour, on a essayé de ramer contre le courant, c'est pas évident. Et au bout d'un moment, on les apercevait au loin et on voyait un radeau qui faisait que de tourner en rond. Et ils tapaient une berge, l'autre berge, et ils avançaient pas. Alors on a décidé de les remorquer. On les a remorqués jusqu'à Bonport et en arrivant, c'est nous qu'on est tombés dans l'eau. Hein. Comme quoi, ceux qui tournent en rond, parfois, mettent en danger les autres. Hein. Frères et sœurs, Dieu veut nous empêcher de tourner en rond. Il veut nous aider. Il veut nous sortir des situations dans lesquelles nous sommes. Et il nous faut pour ça, eh bien, nous appuyer concrètement, de manière concrète sur sa parole. Il veut nous donner sa sagesse. Nous avons besoin de la sagesse que le Seigneur, eh bien, veut donner à chacun d'entre nous. Parfois, nous agissons sans sagesse. Et Dieu veut nous donner la sagesse, l'intelligence. Au moment du témoignage, il veut nous donner sa sagesse et on en a besoin. Dans le désert, j'ai rencontré un homme qui connaît parfaitement le désert. Le groupe l'a vu aussi. Ils ont vu les démonstrations qu'il faisait avec les plantes du désert. C'était très intéressant. Mais à un moment, il nous parlait d'un animal qu'on trouve dans le désert, le porc-épic. Il disait, regardez, le porc-épic est un animal qui est très sage. Il raffole d'oignons, de fleurs qui viennent au printemps et il mange ces fleurs avec beaucoup d'appétit, ces oignons de fleurs. Avec beaucoup d'appétit, il gratte et puis il les déterre, il les mange. Mais avant de partir, il en laissera toujours une. Et autour de cet oignon de fleurs, il va creuser avec ses pattes, il va faire un petit encaissement pour que la moindre goutte d'eau, eh bien, reste et nourrisse cet oignon qui, très vite, va se multiplier dès que la pluie viendra et il aura l'assurance d'avoir de la nourriture pour lui-même ou pour un de ses collègues. C'est une image fantastique, extraordinaire. Dieu nous parle au travers de la nature et nous devons agir pareil. Ne pas penser seulement à nous-mêmes, mais premièrement à autrui. D'abord servir mon prochain, pas moi-même, mon prochain d'abord. Et alors la bénédiction de Dieu pourra descendre avec force. Pour terminer, simplement quelques avertissements qu'on trouve dans la parole de Dieu de la part de l'Éternel. Je m'arrêterai là. Dans le psaume 122, verset 6, il est écrit « Priez pour la paix de Jérusalem. Oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité. » Moi, j'ai envie de vivre en sécurité. Vous aussi, je pense. Priez. Priez pour la paix. Priez pour que la paix vienne à Jérusalem. Zacharie, chapitre 2, verset 8, il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » Dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 8, il est écrit là « Dieu l'a fait sortir d'Égypte, Israël. Hein. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os. » Il les abat de ses flèches, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.